Renard, le miroir enchanté. En arrivant au château de Saint-Véry, où Alexis de la Taille m'avait convié à passer quelques jours, je trouvais à mon vieil ami d'enfance un air de contentement, de jubilation, pour mieux dire, que le plaisir de notre réunion me semblait insuffisant à expliquer. Cette espèce de gaieté un peu mystérieuse s'accompagnait d'une agitation légère mais indubitable. Alexis, tout en me parlant de choses et d'autres, faisait une quantité de petits gestes inhabituels. Au surplus, il perdait constamment le fil de la conversation et se taisait tout à coup pour suivre je ne sais quelle idée absorbante. Il était seul au château. Nous dînâmes en tête-à-tête fort gaiement. Mais à plusieurs reprises, je le considérais en silence, d'un œil intrigué, tellement sa manière d'être me surprenait. Et il advint, en ces moments-là, que lui aussi me fixa, mettant dans son regard tout l'amusement d'un homme qui se divertit à garder un secret et qui retarde savoureusement de vous en faire la surprise. Au fumoir, après le dîner, alors que son attitude avait piqué au vif ma curiosité, Alexis se plaça bien en face de moi et la prunelle brillante, devine ce que j'ai découvert dans les combles du château. La chose la plus propre à nous passionner, toi et moi, c'est-à-dire, si je ne me trompe, de fameux amateurs de merveilleux. Ouais, fis-je puissamment intéressé. Attention, on ne t'emballe pas trop. Ce n'est qu'une histoire racontée dans une lettre. Mais l'histoire est étrange. Et l'homme qui a écrit la lettre ne peut être soupçonné ni de candeur ni de mensonge. C'est le maréchal des Essarts lui-même. La semaine dernière, des maçons qui réparaient les combles se sont aperçus qu'un mur épais en apparence rendait un son creux. Ils ont attaqué la pierre et mis au jour une sorte de réduit où se trouvait un coffre bourré de papiers. 17e et 18e siècle. Tout cela, tu penses, très précieux. Plusieurs lettres de personnages marquants. Une correspondance du maréchal, parmi laquelle ceci. Et Alexis de la Bataille était allé à son secrétaire et en avait extrait un parchemin fort bien conservé. Je le lus. Le mercredi après la fête Dieu, le marquis d'Espange a cherché sa femme et ne l'a plus trouvée. Des gens de bonne intention lui ont dit alors qu'il se prouverait bien que M. de Souricourt eût disparu événement parallèlement. Sur quoi M. d'Espange demeura bouche bée et sans qui, pour quel diable de raison, ce gentilhomme, lui aussi, fut demeuré introuvable. Les uns lui dirent d'y aller voir. Les autres ne tirèrent point par quatre chemins et se prirent à ricaner en lui demandant s'il ne savait pas, s'il ne faisait pas le plaisant, et si en vérité il ignorait que Madame d'Espange et M. de Sauvrecourt l'avaient coiffé en manière de minotaure. Là-dessus, voilà un homme qui bondit, écume, fait attrait à meuter la cour avec la ville, jure ses grands dieux qui ne savait rien de rien, que c'est une chose abominable, qu'il va tirer des criminels la vengeance exemplaire, et qu'il ne voit pas encore, qu'il croit qu'il pourra faire oublier à Madame d'Espange Mais que, quant à l'autre, il savait de quelle façon le châtier, car M. de Soubricourt est un sorcier. Il doit finir comme tel en place de grève. Oui, s'écria-t-il, un sorcier. Sans doute. Il a chez lui un antre d'alchimiste. On me l'a assuré maintes fois. Oh, il y a beau temps que M. de la Reynie lui aurait donné la question s'il s'agissait d'un roturier et non d'un noble, qui jouit par ailleurs d'une assez bonne réputation. Mais il n'y a point de titre ni de renommée qui tienne. À présent qu'il m'a découvert, on va voir de quel bois je me chauffe, morbleu. Est-ce que je fais, moi, d'un suppôt de malin? Chacun riait sous cape. Monsieur de Soubricourt, comme d'aucuns l'avaient bien flairé, avait quitté Versailles. On pouvait croire que les amants étaient déjà bien loin, galopant vers les Pays-Bas, l'Angleterre ou l'Espagne, et que les rattraper n'était point chose facile. Mais Monsieur l'Espange n'en eut cure. Il lança dans toutes les directions des sbires à cheval avec mission de ramener la marquise morte ou vive. Le roi n'avait pu lui refuser une lettre de cachet au nom de l'infidèle. De surcroît, Sa Majesté, assez ennuyée de l'affaire, permit qu'on visitât l'hôtel de Soubricourt et donna l'ordre à monsieur le lieutenant de police d'y procéder sur l'heure en présence de telle ou telle personne qu'il jugerait bon de s'adjoindre. Monsieur d'Espange voulut à toute force en être, et comme monsieur de la Reynie le voyait furieux et l'humeur de tout casser, il pria de venir quelques hommes dont le rang et le caractère devaient en imposer à ce butor. Et c'est ainsi que je pris part à l'opération, en compagnie de messieurs de Sordes des Acherville, et avec des quidams que je n'avais jamais vus, mais qu'on me dit qu'ils étaient versés dans les sciences chimiques et alchimiques. L'hôtel de Sobrecourt était clos et paraissait désert. On ouvrit la porte au moyen de fausses clefs. Je vous dirai sans plus tarder qu'ayant parcouru vivement les chambres et les salles, qui sont fort bellement décorées, et les ayant trouvées parfaitement abandonnées de tout être humain, descendîmes en des caves. Nous découvrîmes en effet tout un attirail formé de pots de corne, caves, cuves, cornues, boîtes bizarres et quantité de fioles contenant des liqueurs de tous aspects. Vous l'avez bien dit, vous l'avez bien dit, répétait sans relâche Monsieur d'Espange, qui trépignait de joie. Oh, il sera rompu et brûlé, le bandit! Ensuite, nous remontâmes, et tout pensifs, comme nous étions pour la plupart, nous revîmes les salles. Il y en avait une petite où aucun d'entre nous n'était passé auparavant. Le rideau l'avait dissimulé à nos yeux. Et ce fut cet enragé d'Espange qui y mit le nez. Il entra et nous l'entendîmes s'exclamer de surprise. Aussitôt nous fûmes 10 dans le cabinet et nous vîmes mon homme stupéfait devant l'objet le plus étonnant qui eût été donné de contempler jusqu'alors. Un miroir de petite mesure, pendait à la muraille. Il penchait afin qu'on eût commodité de s'y mirer. Mais s'y mirer, cela était tout à fait impossible, car voilà le prodige. Une image l'occupait déjà. celle du joli visage de Madame d'Espanges. Et par un effet magique, vous la voyez sourire en ce miroir comme si elle était là, devant, et que la seule explication est que le verre lui reflétait. Pourtant, elle n'y était point. Et la seule explication de cette merveille était que M. de Soubrécourt avait diaboliquement contraint le miroir à garder pour toujours la vision charmante de sa bien-aimée. Par malheur, M. d'Espanges, irrité à la vue de la belle inconstante, leva sa canne et brisa en mille morceaux le meuble féerique avant que personne n'eût pu seulement faire mine de la retenir. « Magnifique, n'est-ce pas ?» me demanda Alexis. « Il est bien dommage que je n'ai pas retrouvé la suite de cette lettre. Commences-tu »« Je pense, dis-je, que nos savants ont eu des précurseurs en des temps d'obscurantisme, où la superstition la plus terrifiée et la plus stupide les obligeait à cacher leurs travaux et leurs inventions sous peine d'être tirés à quatre chevaux et rôtis plus ou moins vivants. Monsieur de Soubrémont m'a tout l'air d'avoir réalisé la photographie en couleur au XVIIe siècle. C'est pourquoi je souhaite qu'il ait goûté paisiblement toutes les récompenses que l'amour lui pouvait prodiguer sous le ciel de Flandre, d'Angleterre ou d'Espagne.